Radio Okapi. Journal présenté par Noël Alouzi Toukabambi.
Toujours pas d'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la RDC, près de 5 mois après l'ouverture de la session inaugurale de la nouvelle législature, et pour cause, les députés de l'Union sacrée de la nation n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur ceux qui devront faire partie de ce bureau définitif. Mais quel est l'enjeu ou l'intérêt d'être membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la RDC? Élément de réponse dans ce journal. La mise en concession du port de Matadi signée entre le gouvernement et la firme américaine Africa Global Logistics, des travailleurs de l'ex-Onatra au Congo central n'en veulent pas. Ils ont exprimé leur désaccord hier à travers une marche à Matadi. Le projet devrait pourtant être exécuté dès le début du mois de juin prochain. Monseigneur Donatien Cholet est l'invité de ce journal. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo s'exprime sur la réaction des archevêques et évêques catholiques aux attaques de dimanche contre le palais de la nation et la résidence de Vital Kamerhe par un groupe d'hommes armés. Bonjour à tous. À l'Assemblée nationale, près de 5 mois depuis l'ouverture de la session inaugurale de cette nouvelle législature, l'élection et l'installation du bureau définitif est de nouveau bloquée. Après plusieurs tractations pour dégager le ticket consensuel de l'Union sacrée, aucun accord n'a été trouvé entre le choix du présidium et les attentes des députés qui dénoncent le clientélisme et le népotisme dans le choix du présidium. Malgré l'intervention du chef de l'État, les candidatures de Christophe Mboso, Caroline Bemba et Chimène Polipoli, contestées par les députés, n'ont pas été retirées au profit d'autres candidats. Conséquence, tout est bloqué, y compris la marche normale du pays. Mais qu'est-ce qui peut motiver cette course acharnée pour devenir membre du bureau de l'Assemblée nationale? Tentative de réponse avec vous, Michel Kifindangoy.
Les membres du bureau de l'Assemblée nationale bénéficient d'énormes avantages que les autres députés n'ont pas. La plupart de ceux qui s'accrochent au poste au sein du bureau au point de bloquer le fonctionnement de tout un pays sont motivés par leurs propres intérêts plutôt que par le bien de la nation, souligne Valérie Madianga, coordonnateur de CREFDEL.
C'est cette marmite d'argent qui attise des convoitises des acteurs politiques. Si vous calculez le 20 millions de dollars qu'on donne au cabinet et les 100 millions de dollars qu'on donne au bureau, ça vous fait pratiquement une marmite de 120 millions de dollars au moins par an manipulée par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est une véritable affaire.
Le président honoraire de la commission PAJ de l'Assemblée nationale confirme aussi les avantages exorbitants qui reviennent aux membres du bureau. Lucien Kassongo.
Aucun membre du bureau n'a moins de 50 000 le mois. En dehors des avantages que je vous ai énumérés, logement, transport, communication, carburant gratuit, un personnel à la maison, ils engagent beaucoup d'agents au Parlement et donc ils se disputent avec raison.
Pendant que certains se battent pour se retrouver à la marmite, la misère de la population ne fait que s'amplifier, s'indignent certains députés qui invitent le chef de l'État à prendre ses responsabilités.
Restons à Kinshasa. Tous les auteurs des fautes de gestion relevées dans le rapport de la Cour des comptes seront poursuivis devant la Chambre de discipline budgétaire, annonce du premier président de cette haute institution financière du pays. Jimmy Munganga l'a dit hier lundi lors de la publication du rapport d'audit réalisé en 2023 sur les recettes judiciaires à travers les cours, tribunaux, parquets, ministères de la Justice et police nationale congolaise. Face à la presse, le premier président de la Cour des comptes a formulé plusieurs recommandations, notamment la suppression de la fonction de greffier comptable ainsi que l'affichage public des taux d'actes générateurs au niveau de tous les services d'assiette. Reportage Jeff Ngoy.
D'un ton ferme, le premier président de la Cour des comptes fait savoir que la faible mobilisation des recettes judiciaires ne pouvait qu'interpeller son institution. Des procès sont annoncés contre les auteurs de fautes de gestion auprès de qui les auditeurs de la Cour relèvent l'ignorance de la loi. Il ressort de 43 entités auditées diverses constatations. D'abord, au niveau des cours et tribunaux.
L'application systématique par le magistrat instructeur du taux minimum de 20 $ sur un maximum de 1 000 $, quelle que soit la gravité des faits et le rang social de l'inculpé à l'occasion de la fixation des taux des amendes transactionnelles et de cautionnement des mises en liberté provisoire.
Ensuite, au niveau des services d'assiette du ministère de la Justice.
L'enregistrement en comptabilité du montant de 10 dollars américains pour l'obtention de l'extrait du casier judiciaire alors que les requérants payent 30 dollars américains ou plus entre les mains des préposés de cette entité.
Enfin, au niveau de la police nationale.
Le versement par M. Mania Vita Emmanuel, comptable public subordonné au commissariat urbain du district de Lukunga, des recettes réalisées dans un compte bancaire ouvert en son nom à la TMB.
En attendant des poursuites, Jimmy Munganga adressera des référés aux autorités hiérarchiques des personnes mises en cause afin d'obtenir d'elles des sanctions disciplinaires.
La Cour des comptes annonce également que la même mission d'audit sera lancée sur les recettes judiciaires en province. En attendant les poursuites, Jimmy Munganga adressera des référés aux autorités hiérarchiques des personnes mises en cause afin d'obtenir d'elles des sanctions disciplinaires. La transmission aux cours et tribunaux judiciaires des dossiers des infractions pénales, dont les détournements des deniers publics. Dans le domaine des finances, un expert financier propose la création d'une agence nationale de certification des taxations pour contrôler en amont la mauvaise taxation. Dans un échange avec la presse à Kananga au Kasaï central, Alexandre Nsabwa explique que cette agence va certifier les taxations des services mobilisateurs des recettes avant d'être versées à la banque. D'après lui, la RDC mérite un budget de 100 milliards de dollars vu les recettes qu'elle peut mobiliser. Mais pour atteindre ces chiffres, il pense qu'il faut éviter des arrangements entre taxateurs et contribuables et assurer la protection des recettes. Les propos d'Alexandre Nsabwa sont recueillis par François Kadima.
Les agences financières de l'État, c'est DGI, DGRAT et puis DGDA. La certification des taxations est un contrôle en amont. Quand vous taxez, on vous contrôle directement. Et là, il n'y a pas moyen de s'échapper. Un contrôle en amont qui permettra d'assurer la sécurité et la protection des recettes. Ce service aura pour rôle d'évaluer, de certifier les taxations de tous les services mobilisateurs de recettes. Pour cela, il doit aussi constater et liquider. Nous avons loué les efforts du gouvernement sur la maximisation de recettes avec les contrôles de l'UGF, contrôle en aval. Ce contrôle a fait monter le budget national des recettes de 4 milliards à 16 milliards de dollars. Mais comme ce contrôle est sur les recettes perçues, il a des limites. Nous souhaitons que ce contrôle soit élargi sur la certification des taxations de tous les services mobilisateurs de recettes. Éviter qu'un service décide sur la taxation.
Au Nord Kivu, alors que les sociétés minières de la province annoncent leur engagement total de ne plus acheter des minerais en provenance des zones sous occupation rebelle, notamment dans le territoire de Masisi, l'exploitation, elle, continue. Un député national élu de Masisi et coordonnateur au sein de la coopérative des exploitants miniers de Masisi, Coopérama, appelle à une mobilisation contre les minerais de sang dans la région. Le député Justin Ndaishimiye l'a dit à l'issue de la deuxième édition de Goma Mining Briefings, tenue la semaine dernière à Goma.
Si aujourd'hui les entités de traitement ont pris la décision de ne plus acheter les minerais en provenance de Masisi, c'est plus qu'il est strictement interdit d'acheter les minerais en provenance des zones occupées par les groupes armés. Alors qu'aujourd'hui, l'exploitation à Masisi continue. Ce qu'il faut exploiter à Masisi, c'est le Rwanda, et les minerais qui sont exploités à Masisi sont acheminés directement vers le Rwanda. Aujourd'hui, ils ont déjà mis un ministre national à Rubaya en charge des mines. Ils sont en train de piller. Donc, aujourd'hui, les minerais de Masisi sont acheminés vers le Rwanda, étiquetés par les services de traçabilité du Rwanda et c'est vendu au marché mondial comme les minerais du Rwanda. Donc, je peux demander à la communauté internationale de s'élever pour prendre des mesures qui peuvent arrêter ce pillage des minerais du Congo par le Rwanda.
Notez aussi que le coltan produit à Rubaya représente environ 50% de la production nationale et 80% de la réserve mondiale, estiment les acteurs miniers. Avec l'occupation de Rubaya depuis le 30 avril 2024, ce sont des recettes significatives qui échappent ainsi au trésor public, dit-il. La RDC ne dispose pas suffisamment des ressources humaines qualifiées dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, des filières qui permettent pourtant d'avoir des innovations dans le domaine de la technologie de pointe. C'est le constat de la présidente provinciale de la Chambre des mines au Nord Kivu lors de la deuxième édition du forum minier tenu la semaine dernière à Goma. Yvette Mwanza encourage la jeunesse à se focaliser dans ces filières pour aider au développement du pays. Cela permettra ainsi de limiter l'importation de la main-d'œuvre dans certains secteurs, dont le secteur minier. Yvette Mwanza le dit au micro de Denise Loukesso.
Si aujourd'hui Israël c'est un pays respecté, c'est parce que c'est un pays qui a beaucoup innové, par exemple dans le domaine de la robotique. Et c'est pourquoi ses adversaires ne peuvent pas s'amuser chez lui. Donc on doit aussi avoir cette vision-là. D'être, si on veut être un pays grand, on doit avoir des ressources humaines qui sont suffisamment qualifiées dans ces matières-là. Et nous devons aussi penser à la recherche appliquée. Comment est-ce que les minerais qui sont extraits chez nous peuvent être transformés en équipement dont nous avons besoin? Tout le monde va utiliser les scanners pour l'imagerie médicale. N'oubliez pas que dans les scanners, il y a aussi une partie des minerais qui provient de la RDC. Maintenant, si nous-mêmes nous fabriquons les scanners ici, ça sera plus rentable pour un Congolais ou plus facile pour un Congolais de se faire examiner. Non. C'est pourquoi nous encourageons la jeunesse, parce que nous, peut-être, on n'a pas relevé ces défis-là. Mais ceux qui viennent derrière nous, les jeunes, doivent plus se focaliser sur ces sciences-là, sur ces filières-là, pour que la RDC soit un pays développé. Et on ne se développe pas sans innovation technologique.
Les archevêques et évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko se disent indignés et condamnent les attaques perpétrées dimanche contre le palais de la nation et la résidence de Vital Kamerhe par un groupe d'hommes armés. Dans un communiqué rendu public hier lundi à Kinshasa, les évêques catholiques disent confier à la miséricorde de Dieu les personnes innocentes qui ont perdu la vie au cours de ces attaques. Par ailleurs, face à cet acte de mépris pour l'inviolabilité des institutions étatiques de la RDC, les prélats catholiques invitent les autorités compétentes à s'engager davantage à renforcer la cohésion nationale. Ils invitent aussi le peuple congolais à ne pas céder à la peur et à demeurer vigilant. Vous suivrez à la fin de ce journal Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Seules les élections demeurent le mécanisme d'accession au pouvoir en République démocratique du Congo. C'est le message du groupe de 27 leaders de la Ligue des jeunes de l'UDPS à la suite des événements survenus le dimanche à Kinshasa. Dans une déclaration hier lundi, cette structure met en garde tout individu ou groupe d'individus qui tenterait d'entraver le pacte républicain d'accession au pouvoir par des moyens non démocratiques. On écoute Sephora Bidoya Astrid, députée nationale et coordonnatrice du G27, dans cet extrait que nous propose Grace Hamzati.
Nous saluons la promptitude avec laquelle la garde républicaine a réagi pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire, demandant à la justice militaire de diligenter une enquête approfondie et sans complaisance, demandant aux services de renseignement, principalement l'ANR, de faire preuve de compétence et d'être à la hauteur de sa mission régalienne, d'anticiper et de prévenir la subversion. Appelons le jeune au sens patriotique, à la vigilance et surtout à ne pas tomber dans les jeux de l'ennemi qui cherche à nous diviser. Dénonçons les silences complices des opposants et l'hypocrisie de certains membres de l'Union sacrée de la nation. Dénonçons les doubles jeux de la communauté internationale et appelons tous les panafricanistes à la solidarité avec la République démocratique du Congo. Appelons le président de la République, chef de l'État, à prendre des mesures décisives dans la conduite sécuritaire et politique du pays.
Quelle que soit la nature des revendications politiques, le recours à la violence ne peut être une option pour la paix, la stabilité et le développement auquel aspirent tous les Congolais. C'est en ces termes que le président du parti Ensemble, de Moïse Katumbi, s'exprime pour condamner le coup de force opéré dimanche au Palais de la Nation, ainsi que la tentative d'assassinat de Vital Kamerhe. Olivier Kamita, tout son porte-parole, indique par ailleurs, je cite, « Toute la lumière doit être établie et les responsabilités dressées sur la nature des événements qui ont provoqué ces pertes en vie humaine dans la capitale. La recherche de la vérité ne peut cependant pas conduire à des arrestations arbitraires et des jugements expéditifs », ajoute-t-il. Au Congo central, des dizaines de travailleurs de l'ex-Onatra protestent contre le projet de la mise en concession du port de Matadi signé entre le gouvernement et la firme américaine Africa Global Logistics. Ils ont marché hier lundi à Matadi pour se faire entendre. Dans leur mémorandum déposé au gouvernorat de la province, ils sollicitent l'implication des autorités du Congo central pour l'annulation pure et simple de ce projet qu'ils qualifient de machiavélique. Le point avec Nana Plurich-Mambou.
Le point de chute de cette marche, partie de la place 24 novembre, en passant par l'Assemblée provinciale et le gouvernorat du Congo central. À travers cette action, le manifestant vêtu en rouge sollicite l'implication des autorités provinciales pour pousser les chefs de l'État à résilier ses contrats avec la firme américaine Africa Global Logistique. Cet accord aura plusieurs conséquences tant pour les pays que pour la population de la ville de Matadi, comme l'affirme l'intersyndicale nationale de la SCTPX Onatra, Armand Osase.
L'Onatra est sérieusement menacé par un contrat léonin où l'Onatra sa part 15%, représentant 2 millions de dollars l'année. Alors que l'Onatra produit 3-4 millions le mois. Ce contrat mettra fin ici dans votre province. Le déchet qui viendra, si l'idée rwandaise, les conséquences sécuritaires.
Pour ces derniers, à travers les créances de la SCTP auprès du gouvernement, cette société peut seule se redresser.
On a trait un programme d'urgence d'équiper les ports de Matadi, pas de grippe poctue, équiper les ports de Boma, Banane, réhabiliter les chemins de fer, achat des trains, wagons pour les chemins de fer, aussi de payer tous les retraités.
Signalons que la mise en exécution de ces projets de concession est prévue pour les débuts du mois de juin. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Afrique du Sud salue la demande hier du procureur de la Cour pénale internationale CPI des mandats d'arrêt contre des responsables israéliens et du Hamas. L'Afrique du Sud, fervent défenseur de la cause palestinienne, a déposé plusieurs recours ces derniers mois auprès de la CIJ, plus haute instance judiciaire de l'ONU, accusant notamment Israël de génocide à Gaza.
L'invité.
Notre invité, c'est le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko. Monseigneur Donatien Cholet parle de la réaction des archevêques et évêques catholiques aux attaques perpétrées dimanche contre le palais de la Nation et la résidence de Vital Kamerhe par un groupe d'hommes armés. Il s'entretient avec Grace Amzati.
Monseigneur Donatien Cholet, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la réaction de la Sanko aux événements tragiques de dimanche ici à Kinshasa?
Vous dites bien que c'est tragique du côté de la CENCO, c'est l'indignation, c'est la condamnation. On ne peut pas accepter qu'on manque du respect aux institutions du pays et puis qu'on joue avec la vie humaine à ce niveau jusqu'à tuer des innocents qui n'ont rien à faire avec la gouvernance de ce pays. C'est quelque chose que les évêques ne peuvent pas accepter, c'est avec grande stupeur, comme vous avez lu, qu'ils ont appris cette nouvelle. Les évêques mentionnent dans leur message d'indignation et de condamnation le regret de voir le service de sécurité nargué à ce point, mais le plus important, c'est la recommandation que les évêques font aux autorités de s'engager davantage pour renforcer la cohésion nationale. Mais l'essentiel du message, c'est s'indigner et surtout condamner ces groupes armés qui commencent à jouer avec les institutions du pays et surtout la vie humaine.
Dans votre communiqué de ce lundi, vous fustigez le fait que dans les réseaux sociaux circulent des images ou des photos où le leader de ces assaillants, le chef de ces assaillants, Christian Malanga, est aux côtés des évêques catholiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Eh bien, c'est une certaine exploitation malsainte, malveillante, de qui veut trouver une corrélation entre la CENCO et celle-là, alors que tout le monde sait comment les autorités sont sollicitées par tous les Congolais à n'importe quelle occasion pour se faire photographier avec eux.
Et quelles sont les recommandations de la CENCO aux uns et aux autres, et particulièrement aux hommes politiques, mais aussi aux services de sécurité?
Eh bien, je crois que c'est chacun qui doit se laisser interpeller par ce qui est arrivé. Les évêques recommandent aux autorités compétentes de voir dans ce qui vient de se passer un besoin de renforcer davantage la cohésion nationale. Et aussi, le peuple de Dieu, la population congolaise n'est pas cédée à la peur. Et sur la sécurité, je crois que les évêques ont plusieurs fois interpellé le gouvernement là-dessus. Le pays, les Congolais ont besoin de se sentir vraiment sécurisés. Je crois que la CENCO, par sa commission justice et paix, s'implique dans l'éducation civique. Ça, c'est une question de civisme. Donc, La conscience de l'inviolabilité des institutions du pays font partie de l'éducation civique que la CENCO assure à un certain niveau. Mais aussi dans sa mission prophétique, la CENCO ne cessera d'interpeller toutes les personnes qui ont quelque chose à faire pour améliorer non seulement la sécurité des conditions de vie, mais aussi ceux qui doivent s'engager davantage pour mieux servir le pays.
Vous avez un dernier message, Monseigneur?
Le dernier message, c'est que nous n'avons qu'un seul pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo, et c'est notre maison commune. Donc chacun de nous a quelque chose à apporter pour le bien-être de tous, et les gouvernants ont la première responsabilité de veiller sur le bien commun. Et bien sûr, ils ne sont pas des magiciens, que nous, la société civile, nous sommes là pour les accompagner en exprimant nos besoins, mais aussi en dénonçant ce qui ne va pas.
Monseigneur Donatien Cholet, je vous remercie.
Je vous en prie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.